êtes bien sur Radio BLV 93.6. C'est La Locale, notre rendez-vous quotidien du mardi au jeudi d'information locale et territoriale, pourrait-on dire, de midi 15 à 13h. Est-ce que tout va bien d'abord, Karina?
Ah bah oui, écoute, tout va bien, il fait beau. Donc très bien. Tout va bien.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors si on fait un petit focus là d'abord. Ah.
Petite erreur technique, on n'en est pas tout de suite à Anthony. Alors au programme des informations de ce midi, on va commencer dans quelques instants avec Marlène Mourier, madame le maire de Bourg-lès-Valence, que nous allons avoir au téléphone pour savoir comment la mairie s'organise par rapport à ce reconfinement, quelles sont les mesures qui ont été prises, etc., etc. Donc ensuite, à 12h35 environ, on parlera des aides régionales, parce que la région a débloqué un certain nombre d'aides pour les commerces en particulier. À 12h38, on appellera l'association Le Palier. Et pour finir, à 12h50, on appellera l'auberge des Trois Ruisseaux à Combeauvin. Voilà pour le programme, Sylvie.
Et on commence tout de suite, comme tu le disais, Karina, par notre première invitée, Madame Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir accepté merci d'être avec nous pour ce temps d'échange dans La Locale. Alors, Marlène Mourier, comment s'organise, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment s'organise la mairie depuis l'annonce du reconfinement partiel et quels services sont maintenus en présentiel ou pas?
Bien, écoutez, fort de notre expérience de la première période de confinement, nous avons tout de suite mis en place une cellule interne de crise avec une mobilisation de tous les services de la ville, parce que l'objectif était de maintenir le service public pendant cette nouvelle période, tout en protégeant bien sûr nos agents municipaux. Nous modifions nos habitudes, nous ne modifions pas notre engagement vis-à-vis des bourquins, et avec les représentants syndicaux de notre ville, et en concertation bien sûr avec nos agents, Nous avons essayé de constater, de mettre en place toute une liste de postes éligibles au télétravail, puisque le gouvernement a fait du télétravail la règle partout où il est possible, mais il n'est pas possible partout, notamment dans une mairie, puisque nous pouvons faire du télétravail à partir du moment où les dossiers peuvent sortir. Or, nous avons, je prends l'exemple de notre service urbanisme, nous ne pouvons pas sortir des dossiers de permis de construire, par exemple. Donc, le télétravail, dans ce cas-là, n'est pas possible. Il y a aussi des moyens techniques qui ont été mis à disposition de notre personnel municipal à leur domicile, parce que chacun n'est pas équipé d'Internet à son domicile. Et donc, la municipalité avait anticipé cette situation au premier confinement. Donc là, il y a eu des moyens informatiques communaux qui ont été acquis justement pour permettre aux agents de travailler de chez eux. Et ensuite, on a une troisième catégorie, je dirais. Il y a des agents qui, pour des raisons de situation d'isolement, d'absence de lien social, ne veulent pas faire du télétravail parce qu'il y a ce volet psychologique aussi qu'il ne faut pas oublier et que nous prenons en compte dans la collectivité pour les accompagner. Et bien sûr, une protection majeure de nos agents. Pour ce qui concerne le service public, la plupart du temps, il y a un accueil du public sur rendez-vous dans les services, de façon à espacer les plages horaires, pour éviter, bien sûr, tous les croisements qui pourraient se faire.
Alors, le confinement a annulé les mesures de couvre-feu. Qu'en est-il à Bourg? Est-ce que vous pensez, comme au printemps, remettre un couvre-feu en place éventuellement?
Bien, écoutez, pas pour l'instant. Et puis, il y avait eu ce fameux couvre-feu qui avait été mis à partir de 21h que le gouvernement a levé. Mmh. Après, c'est vrai que on pourrait, nous, mettre en place un couvre-feu. Pour l'instant, il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas d'urgence à le mettre, d'autant plus que les bourquins se conforment à tout ce qui leur est demandé. C'est-à-dire que nous sommes en confinement, ça veut dire que le soir, si ils n'exercent pas d'activité professionnelle, parce qu'il faut le dire que même pendant une période de confinement et même lorsqu'il y a un couvre-feu, on peut exercer son activité professionnelle. Donc cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, tout cela, bien sûr, est accordé, mais tout se passe bien. J'ai une police municipale qui a fait une couverture d'horaire un petit peu avancée dans la nuit, et il n'y a pas des personnes vraiment qui sont à l'extérieur, et pour l'instant, ça ne nécessite pas de couvre-feu.
Pour ce qui est de l'obligation de porter le masque sur toute la commune, est-ce que c'est maintenu, ça ?
On fait un peu la chasse tous les jours quand même, parce qu'il y a des personnes qui, je le vois, lorsqu'on se promène le long de nos canaux, chemin du Valentin, on est tout seul, on n'a pas envie de mettre de masque. Je l'entends bien.
Oui, c'est vrai.
Mais
que
la règle,
paraît...
c'est qu'on... Voilà, ça paraît incroyable. Mais comme on ne sait pas ce virus, c'est comme il est dans l'air et on n'a pas, bien sûr, les solutions miracles. Alors, il vaut mieux faire, bien sûr, de la prévention, se prémunir de masques. Et ça, c'est tout le travail de discussion que fait aussi ma police municipale. On n'est pas là non plus à mettre des verbalisations à tout va. Lorsque cela peut s'avérer nécessaire, où nous avons des personnes récalcitrantes parce que se trouver dans un regroupement de personnes à plus de 10, comme on a pu le voir, ça, ce n'est pas entendable.
Bien sûr.
Après, on fait encore beaucoup de pédagogie, bien évidemment.
Alors, à la rentrée des vacances de la Toussaint lundi dernier, il y a eu un peu de cafouillage général sur les horaires de début de classe et dans les collèges, etc. Et notamment les temps de garderie et l'hommage à Samuel Paty. Alors, dans les écoles de Bourg-lès-Valence, vous-même et d'autres élus êtes venus pour accueillir les enfants. Alors, pourquoi et quel a été votre rôle ?
Bien, c'est vrai que dans un premier temps, et moi, nous avions mis tout le personnel nécessaire pour que les parents qui souhaitaient mettre leurs enfants à partir de 8h du matin, puisque l'hommage devait être à 10h, eh bien nous avions organisé un temps avec nos agents et moi-même. Hein, je me serais rendue dans les salles de classe pour assurer la classe, la garderie des enfants de 8h à 10h. Puis il en a été décidé autrement par l'Éducation nationale. Donc, nous avons souhaité quand même nous rendre dans les écoles pour un hommage à Samuel Paty. Et donc, nous avons pris ce temps avec les enseignants, la directrice de l'école et les enfants pour lire avec eux le texte, bien sûr, de Jean Jaurès et rendre hommage à cet enseignant.
Alors, pour les lycées commencent à passer en présence partielle, mais restent ouverts, ainsi que les collèges et les écoles. Au printemps, vous aviez décidé du maintien de la fermeture des écoles primaires, puis d'une réouverture juste avant les vacances. Pour ce second reconfinement, qui n'en est pas un tout en étant un, est-ce que vous avez mis en place des mesures particulières dans les écoles, ou est-ce que vous pensez le faire ?
Voilà, alors pour ce qui concerne le passé... Lorsque j'avais pris cette mesure un petit peu exceptionnelle, toujours l'objectif était de protéger les enfants et par là même protéger les enseignants, les directeurs et les parents. C'était mon unique objectif à cette époque-là parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce virus. On ne savait pas comment vraiment se protéger, masque, pas masque. Il y avait des dispositifs de nettoyage de classe, mais enfin, tout ça était vraiment dans l'incertitude. C'est ce qui m'avait amené à prendre cette décision. Aujourd'hui, on a un petit peu d'expérience en la matière et donc nous avons mis en place pour ces nouveaux temps scolaires, avec cette deuxième période, nous avons mis en place des mesures nouvelles, mais ça c'est sur tout le territoire national, on l'a vu, puisqu'il y a le port du masque qui est obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans. Il y a une fréquence des aérations renforcée, beaucoup plus que la première fois, une fréquence bien sûr des lavages des mains également, que ce soit pour le personnel, enseignant, que ce soit pour les enfants. Je vous donne un exemple hein, qui peut paraître anecdotique. Auparavant, c'était 4 fois où les enfants devaient se laver les mains dans un laps de temps assez court. Cette fois, on est à plus de 7 fois. Et puis, il y a une fréquence qui est renforcée aussi en termes de nettoyage, de désinfection des locaux, des points de contact, des mobiliers, du sol, etc. Et puis, bien sûr, la présence des points de gel aux endroits stratégiques, je dirais. Et ce renforcement de la limitation du brassage des élèves avec la gestion des arrivées, des départs, des modifications des circulations dans les bâtiments, des récréations par groupe, etc. Donc il y a une organisation qui est renforcée, bien évidemment, pour bien protéger tous ceux qui se trouvent dans l'enceinte scolaire. Et même sur la restauration scolaire aussi, nous avons un troisième service que l'on a mis en place justement avec des décalages horaires pour que tous les enfants ne se trouvent pas ensemble.
Et du coup, c'est du personnel supplémentaire qui a été mis, à disposition des écoles ?
Bien sûr. On ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y a un nombre, bien sûr, de personnel en fonction du nombre d'élèves. Et de cela, on ne pouvait pas se permettre. Et on n'a pas hésité une minute à le faire, bien évidemment.
Nicolas D'Aragon a présenté la semaine dernière la future plateforme d'achat et de réservation en ligne des commerces valentinois. Alors, on aurait pu imaginer une plateforme similaire, mais à l'échelle de l'agglo, car de nombreuses communes de petite taille n'ont pas les moyens humains et financiers de mettre ce genre d'outils en place. Est-ce qu'au niveau de Bourg-lès-Valence, vous imaginez quelque chose d'un peu similaire ?
Alors, en général, à Bourg-lès-Valence, on se démarque toujours un peu des autres. Et je n'ai pas annoncé une mesure tout de suite, parce que c'est trop important. Je ne dis pas que les mesures qui ont été prises par mes collègues ne sont pas importantes et ne sont pas efficaces. Ce n'est pas ce que je dis. C'est simplement, je crois qu'il faut aller plus au fond des choses et que nous sommes en réflexion avec mon équipe. De toute façon, il y a une opération qui va se déclencher aujourd'hui ou demain, puisque nous allons, mais j'aurai l'occasion de vous convier à un point presse spécifique pour vous dire exactement ce que l'on va faire. Nous allons traiter du cas par cas auprès de nos commerçants pour trouver un dispositif global ensuite qui correspond vraiment à leurs besoins et à leurs attentes et surtout que ça ne soit pas compliqué pour eux parce qu'aujourd'hui, je sais bien qu'on est tous dans le temps de l'Internet, mais pour certains d'entre eux, je les ai déjà entendus, click and collect, visio achat, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications, il y a peut-être des formations, il y a un certain nombre de dispositifs peut-être qu'on peut mettre aussi en place au travers peut-être ces plateformes. Mais je pense que ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va leur proposer dans un temps pas très loin, c'est quelque chose de très personnalisé, d'assez original me semble-t-il, mais on aura le temps de vous le présenter aux uns et aux autres, et surtout aux commerçants en premier lieu. Donc je ne veux pas communiquer sur le sujet sans les avoir mis au courant précisément. Voilà. Ce que je souhaite dire, c'est que la mesure que l'on va mettre en place, les mesures qu'on va mettre en place pour nos commerçants, ça ne sera pas que le temps de la crise. Ça sera sur du très long terme. Voilà.
Alors, outre les commerces, ce sont aussi des associations qui prennent de plein fouet les mesures sanitaires et la crise sanitaire en général. Ici, à Bourg, comme dans d'autres endroits, elles ont déjà été très impactées, notamment par l'annulation du forum des assos en septembre. Est-ce que la commune envisage un soutien particulier aux associations, qu'ils soient financiers ou logistiques, dans le même esprit que les commerçants ?
Bien sûr. Donc cette problématique des associations, nous l'avons bien pris en compte puisque nous avons décidé, et malgré la non-activité hein, des associations, nous avons décidé de maintenir leurs subventions parce qu'on n'est pas là non plus pour les mettre dans le rouge en termes de trésorerie. C'est un effort financier important pour la collectivité. Mais à partir du moment où ils vont se trouver en difficulté parce qu'à mon avis, ils ont beaucoup moins d'adhésion que les années précédentes. Et puis parfois, ils font des rentrées d'argent suivant certaines manifestations qu'ils peuvent organiser. Là, ils vont être vraiment en difficulté et justement, on leur tend la main à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin vraiment de nous et on est bien sûr à leur côté.
Donc ça voudrait dire une augmentation des subventions ?
Non, un maintien déjà, c'est beaucoup. Maintenir les subventions, il y a des collectivités qui ne renouvellent pas leurs subventions pour certaines de leurs associations. Et je suis aussi conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, mmh. avec le président Laurent Wauquiez, là aussi. Il y a une information que j'ai diffusée auprès des associations pour celles qui se trouvent vraiment en difficulté financière. Il y a des prêts qui peuvent se faire et qui sont très intéressants pour eux. Voilà. D'ailleurs, on a fait partir un mailing et j'ai eu des remerciements d'associations. Mmh. Et puis, nous avons des associations qui sont, bien au fait des difficultés des collectivités et qui ont renoncé à leurs subventions. J'en ai 2-3 en tête qui m'ont écrit, Madame le maire, cette année, nous n'avons pas d'activité, nous connaissons les difficultés des collectivités, nous renonçons cette année parce que nous aussi on est solidaires et on renonce, et ça vraiment je veux leur tirer mon chapeau parce que c'est juste un très beau geste. Voilà.
Alors on ne peut pas terminer sans une pensée pour le Haut-Karabakh. On est obligé de faire très très court parce que malheureusement on n'a pas non plus on n'a pas de temps, mais c'était je voulais qu'on termine avec une pensée pour le Haut-Karabakh suite à l'accord de cessez-le-feu total signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan hier par le premier ministre arménien et ses homologues russes et azerbaïdjanais, pardon. Peut-être deux mots simplement pour clôturer.
Je suis consternée, je suis triste, vraiment, parce que de la façon dont cela se passe, c'est incroyable. Personne n'est venu au secours du peuple d'Artsar. La France n'est pas intervenue, la Russie n'est pas intervenue. On les a laissés tout seuls. Ce peuple qui est chrétien, on les a laissés vraiment dans ces combats de guerre. Et aujourd'hui, y a des territoires qui se perdent. Aujourd'hui, la ville de Chouchi est tombée entre les mains des Azéris. Je n'ai pas encore les informations de la situation à l'instant où je vous parle, mais ce que j'ai pu lire et voir ce matin est tout à fait consternant, parce que on laisse ces territoires historiques où le peuple d'Artsar a ses racines dans leurs terres. Et aujourd'hui, ce sont les Azéris qui vont récupérer ces terres-là. Et dans leur tête et dans ce qui doit se passer aujourd'hui, je ne sais pas. Ça doit être une révolte. Je ne sais pas comment ils vont l'exprimer. Je ne sais pas comment ça va être géré, la situation, maintenant qu'il y a eu cet accord qui s'est passé. Mais personne, je pense que dans les jours qui arrivent, on va pouvoir peut-être mesurer l'importance de cette décision.
Merci beaucoup Marlène Moyer d'avoir été avec nous on continue à toutes et tous faire de notre mieux pour le bien commun. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Merci.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Décidément, il va absolument...
Encore une fois. Et non, c'est toujours pas l'heure d'Anthony. Il est 12h35 et je voulais vous proposer un petit point sur les aides de la région, parce que la région a annoncé qu'elle débloque 50 millions d'euros pour aider les commerces de proximité et les restaurateurs avec ou sans point de vente pour qu'ils puissent développer leur commerce en ligne. Donc, si vous faites partie de cette catégorie, alors écoutez bien, il y a 3 aides différentes. Il y a d'abord une aide financière pour créer son site internet, ça s'appelle Mon Commerce en ligne. Donc, il s'agit d'une aide de 1500 euros avec un taux de 50% pour financer la création, la refonte, l'optimisation d'un site internet de e-commerce, mais aussi la publicité et autres solutions numériques pour booster les ventes. Les frais de référencement peuvent être remboursés aussi, et l'achat du nom de domaine. Donc, les conditions pour bénéficier de cette aide, c'est d'être un commerce de proximité ou artisan indépendant, avec ou sans point de vente, donc sédentaire ou non. Et votre effectif doit être inférieur à 10 salariés. La région tient également un annuaire des prestataires régionaux capables de réaliser votre site internet si vous en avez besoin. La deuxième aide sur les trois, c'est une aide aux investissements pour la vente à distance ou à emporter. C'est une aide entre 500 et 5 000 euros avec un taux de subvention de 80% maximum. Et cette aide concerne en fait tout ce qui peut vous aider à mettre en place un système de click and collect ou de la livraison. Donc ça peut comprendre des aménagements intérieurs et extérieurs, des vitrines, des comptoirs, de l'équipement professionnel spécifique, des mobiliers, de l'informatique, même un véhicule de livraison ou des fournitures de type consigne. Les conditions pour en bénéficier, c'est toujours d'être commerçant ou artisan indépendant. Votre effectif doit encore être inférieur à 10 salariés et votre chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros. Alors pour la troisième et dernière aide proposée par la région, c'est une aide qui a pour but d'accompagner votre présence sur les marchés. Donc voilà, elle financera vos dépenses d'investissement liées à l'installation ou à la rénovation de points de vente neufs ou d'occasion, que ce soit un véhicule, du matériel, du mobilier, des barnums, des enseignes, des parasols, de l'équipement informatique, voilà, tout ce qui est lié à votre activité commerciale. Cette aide, elle est entre 500 et 10 000 euros, donc elle n'est vraiment pas négligeable. Et elle ne doit par contre couvrir que 25% de vos dépenses. Alors, comment faire pour recevoir une de ces trois aides? Rendez-vous sur le site internet de la région auvergne-rhône-alpes.fr dès la fin de la semaine. Et bonne nouvelle, ces aides sont rétroactives pour vos dépenses depuis le 1er octobre. Et puis, bonne nouvelle encore, je voulais vous partager une petite information. On appelle ça une info sourire avec Sylvie. Voilà, les données à lire aux enfants du Secours populaire. Donc, entre la journée mondiale du refus de la misère qui avait lieu le 17 octobre et celle des droits de l'enfant le 20 novembre, le syndicat de la librairie française invite chacun à ajouter un livre jeunesse à ses achats chez les libraires indépendants. Et ce livre sera offert à un enfant accompagné toute l'année par le Secours populaire et par son mouvement Copains du Monde dans le cadre de l'opération Donner à lire. Encore quelques bonnes nouvelles cette fois-ci, c'est des bonnes nouvelles pour la planète. Voilà, on fait le plein pour être un petit peu plus en forme, un petit peu plus heureux en ce moment dans cette période difficile. La plateforme de vidéos en ligne Brut, comme tous les mois, partage des bonnes nouvelles pour l'environnement. Donc, ce mois-ci, on en a 5. Pour commencer, au Royaume-Uni, 3 géants de la grande distribution ont décidé de renoncer à vendre des paillettes pour Noël. Donc, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ces minuscules morceaux de plastique à usage unique mettent des centaines d'années à se dégrader dans l'environnement. Et une des 3 chaînes de magasins, à l'origine de cette décision, a carrément annoncé que pour elle, ça représentait 50 000 tonnes de plastique sur ses étagères. Au Zimbabwe, le gouvernement interdit toute exploration minière dans les réserves naturelles du pays. Cette décision intervient après les critiques provoquées par un permis d'exploration charbonnière octroyé par le Zimbabwe à la Chine sur le territoire de son parc naturel Wangé, qui abrite quand même plus de 45 000 éléphants. Donc, tous les titres miniers détenus dans les parcs nationaux ont ainsi été annulés avec effet immédiat. Et puis, début septembre, le gouvernement thaïlandais a annoncé fermer 150 parcs nationaux entre 2 et 4 mois par an afin de laisser aux écosystèmes le temps de se régénérer. Cette décision a été encouragée par les effets positifs sur l'environnement du dernier confinement lié au Covid. Le ministre du Tourisme a déclaré « Cette crise est l'occasion de repenser totalement notre industrie touristique. Si on ne saisit pas cette chance, alors la Thaïlande n'aura plus rien à offrir. » Et à Singapour, un parc de 400 hectares va être créé dans le nord du pays afin de servir de refuge aux oiseaux, aux crocodiles, aux loutres et autres petites et grosses bêtes du pays. Un pays qui a aussi comme ambition de planter 1 million d'arbres d'ici 2030. Et dernière nouvelle, en Australie, 26 diables de Tasmanie ont été réintroduits 3000 ans après avoir disparu du continent. Le but, c'est de protéger cette espèce qui commence sur l'île de Tasmanie à avoir un cancer contagieux. Donc voilà, des espèces de diables de Tasmanie sains ont été prélevées et relâchées en Australie dans l'espoir que ça puisse sauver voilà, les futurs diables de Tasmanie.
Merci Karina de ces bonnes nouvelles.
Ça voilà, fait du bien.
De ces quelques bonnes nouvelles. on n'en a quand même pas beaucoup. Et maintenant, on retrouve Simone Rieux, présidente de l'association Le Palier. Bonjour Simone.
Bonjour.
Alors, bienvenue sur notre antenne. On est ravis, on va essayer dans la locale de faire le tour de plusieurs associations bourquaines. Alors, le palier pour P comme permanence, A comme accueil, L comme lien, I comme insertion, E comme écoute et R comme rencontre. Je dirais que presque que tout est dit sur cette belle association. En deux mots, on peut présenter-nous le palier.
Alors, l'association Le Palier accueille des personnes qui sont en difficulté, en situation de précarité. Et notre mission, c'est de les aider à réussir leur insertion sociale. La plupart de ces personnes sont des migrants. Des migrants qui sont récemment, depuis peu de temps, sur le sol français. Mmh. Et c'est par le biais de la langue, des apprentissages du français, qu'on tente de les aider. Alors, on a plusieurs types de cours. On a aussi des permanences d'aide aux démarches administratives, des ateliers d'apprentissage du français, de l'accompagnement scolaire et également... des ateliers sociolinguistiques pour leur permettre de mieux connaître les différentes institutions françaises.
Et vous êtes basée à la Maison de la Solidarité, 45 avenue Jean Moulin à Bourg-lès-Valence.
C'est ça.
Alors, ce palier, en ce moment, est-ce que les activités continuent ?
Alors, depuis le début du confinement, les activités continuent par Internet, mais c'est très difficile parce que justement la plupart de nos personnes, des personnes que l'on suit, nos apprenants, n'ont pas l'abonnement Internet. Du coup, alors des fois on essaye de pallier à cette carence parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent, on a une partie de personnes qui travaillent à Graines de Cocagne.
Oui.
Et du coup, souvent, j'envoie les documents à Graines de Cocagne qui les remet aux apprenants. Chacun essaye un petit peu de rester en contact, en tout cas, avec les différents apprenants, puisque là, on en a quelques-uns qui ont attrapé la Covid, qui sont malades. C'est difficile de les accueillir parce qu'on a des locaux trop exigus, donc on pourrait en mettre très peu. Et c'est dommage parce que on avait commencé une année, on fonctionne sur le rythme de l'année scolaire. Et ça faisait un mois et demi qu'on avait commencé et voilà, on s'arrête. C'est très dommageable pour eux parce qu'ils ont parfois des statuts qui... exigent qu'ils aient une connaissance de la langue française pour pouvoir travailler.
Et là, ça rentre dans le cadre de... Parce que les associations peuvent continuer. Enfin, le télétravail, effectivement, n'est pas forcément possible. Donc, pourrait continuer. Mais vous faisiez remarquer que vous aviez une salle trop exiguë. Peut-être si vous aviez un endroit plus large, plus vaste, ça permettrait d'accueillir des gens quand même.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Madame le maire, que j'ai entendu tout à l'heure, connaît bien notre situation et sait qu'on a des locaux qui sont pas possibles pour le nombre de personnes, d'apprenants que l'on a. Alors, on a des locaux qui nous sont prêtés par la MJC, on a d'autres locaux qui nous sont prêtés par la mairie, une salle à l'ancienne école Jean Vacher. Mais c'est insuffisant et surtout c'est très difficile de coordonner ces différents lieux. Du coup, on est un petit peu en porte-à-faux, on est obligé de refuser des personnes qui souhaiteraient venir apprendre le français. Et voilà. C'est dommageable parce que nous avons des financeurs qui sont importants, enfin, qui mettent le paquet, je dirais, notamment la DDCS, le département, la CAF. Et on ne peut pas accueillir ni tout le monde, ni dans de très bonnes conditions actuellement.
Mmh. Oui, malgré effectivement les financements, il y a un moment où ben, les financements ne peuvent pas nécessairement couvrir la location, une location de lieu, etc.
Non, enfin ces financements nous permettent de financer quand même une salariée à plein temps. Mmh. Ça c'est déjà pas mal parce qu'elle assure toute la coordination.
Bien sûr.
Mais voilà, louer des salles, ce serait trop onéreux pour nous.
C'est un problème redondant sur Bourg, effectivement, que ce manque cruel de locaux pour accueillir les associations. Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait permettre de donner un petit coup de pouce justement à garder ce lien? Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité peut-être de pouvoir trouver un système de prêt, de matériel ou de mise à disposition justement de matériel?
C'est-à-dire que le matériel, ce serait pas mal, mais c'est un premier pas. Mais après, il faut payer l'abonnement.
Et oui.
Et c'est onéreux. Mmh. Ces personnes que nous recevons ne peuvent pas se permettre ces frais. Mmh. Alors pour le moment, on est un petit peu. On essaye par téléphone, on prend au moins de leurs nouvelles, notamment quand ils sont malades, etc. Parce que souvent, c'est des personnes quand même isolées. Mmh. On essaye de faire ce qu'on peut, mais on souhaite retrouver très vite la possibilité de les accueillir dans les différents lieux qui fonctionnent jusqu'à présent, mais qui sont encore insuffisants.
Mmh. J'entends
et,
bien.
Voilà. Et surtout, alors, ce qui nous intéresserait beaucoup aussi, parce que c'est un autre problème, c'est qu'on a les bénévoles, pour la plupart, sont des personnes qui sont à la retraite. Et ces personnes, effectivement, ça pose un autre problème, c'est qu'avec cette épidémie, on a des personnes qui ne souhaitent plus venir tant que cette pandémie existe. Donc on est en recherche de bénévoles, de manière à ce qu'on pallie pendant ce temps, qu'on puisse quand même assurer les cours avec des personnes qui sont disponibles, ou plus jeunes, ou pas malades.
Donc, on est d'accord que c'est pour dispenser des cours de français, des cours d'initiation au français, parce qu'il y a plusieurs, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux. Comme vous le disiez, c'est indispensable pour les gens que vous accompagnez, pour pouvoir accéder à des papiers, etc. Il faut maîtriser la langue française.
Tout à fait. La plupart des personnes qui sont chez nous ont déjà leurs papiers. Mmh. Mais pour pouvoir accéder à un travail.
Oui, aussi.
Actuellement, nous, je parle des bénévoles, on a on avait 27 bénévoles l'an dernier, on doit être à une vingtaine, on a déjà au moins une grande partie de bénévoles qui ne peuvent plus fonctionner. Mmh. Et ça, c'est tout à fait légitime, c'est des qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas venir.
Donc,
on aimerait bien que d'autres personnes viennent nous accompagner, nous aider.
Vous rejoindre.
Alors il y a aussi de l'accompagnement scolaire. Donc ça aussi, on a des lycéennes qui viennent et qui sont prêtes, je crois, à continuer. Mm-hmm. Mais pour le moment, on ne peut pas accueillir le groupe d'enfants qu'on a et il est trop important avec les encadrants. Mm-hmm. Voilà.
Bon, l'état des lieux. C'est important de faire le tour des associations, de faire l'état des lieux un petit peu, parce que Marlène Mourier disait qu'effectivement certaines associations n'avaient pas d'activité, très bien. Mais pour la grande majorité d'entre nous, je nous mets dedans puisque Radio BLV est une association, on continue à avoir une activité et je dirais qu'elle est presque redoublée par nécessité aussi.
Oui, c'est plus compliqué pour nous d'appeler les personnes, savoir où elles en sont, ce qu'elles ont fait, si elles ont fait les exercices, si on peut corriger ensemble au téléphone. C'est compliqué.
Donc si vous nous écoutez, que vous avez un peu de temps à vous, n'hésitez pas à rejoindre le palier. Je donne le numéro de téléphone, c'est le 04 75 55 32 39. 04 75 55 32 39. C'est le palier, donc, à la Maison de la Solidarité, 45 avenue Jean Moulin à Bourg-lès-Valence. Mais par téléphone, c'est effectivement le plus simple et vous serez très bien accueillis par le Fatia, il me semble, je ne dis pas de bêtises, la salariée qui fait un super boulot d'accueil notamment.
Très bien. En tout cas, je voulais rajouter, c'est une association laïque, ce qui, voilà.
C'est important de le dire aujourd'hui, vous avez raison.
Voilà.
Absolument.
Merci.
Merci à vous, Simone, et puis bravo.
Bonne journée à tout le monde. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Et si on veut, ben si voilà, ça passe, le temps passe vite en bonne compagnie toujours. À nous de, il a voulu l'enregistrement a voulu démarrer à plusieurs reprises. On va peut-être le passer dès maintenant.
Il est temps là, je pense, d'entendre enfin Anthony.
Je te laisse le présenter.
Oui, alors Anthony, donc c'est le chef cuisinier de l'auberge des Trois Ruisseaux. Et on va découvrir ensemble une jolie initiative pour créer du lien et rester vivant à Combeauvin. Voilà, produits d'épicerie, espace associatif, une place pour les producteurs locaux et de la vente à emporter. Voilà, préparez-vous à bientôt avoir très très faim.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
Alors, si on fait un petit focus là, d'abord sur l'auberge des Trois Ruisseaux à Combeauvin, d'abord parce que Combeauvin est aux marches de notre l'agglo et c'est un très joli village qui est niché au pied du Vercors, et puis parce que l'auberge des Trois Ruisseaux vous avez une initiative très sympathique et qui permet de créer du lien, et ça on aime sur Radio BLV, puisque c'est l'auberge est comme tous les restaurants fermés, mais vous faites de la vente à emporter au niveau de la restauration, ça on en parlera, mais surtout vous avez mis en place une épicerie. Une épicerie, un espace associatif et un lieu pour les producteurs locaux, etc. Alors comment ça se passe, la mise en place de cette épicerie? Est-ce que c'est vraiment pour le suite au confinement, ou est-ce que c'est aussi une idée qui traîne un petit peu dans la tête depuis quelque temps?
Alors en effet, ça part d'une idée qui traîne dans les tiroirs du projet du lieu depuis quelque temps. Mais c'est aussi un constat du premier confinement, où il s'est recréé un lien social qui s'était un peu amoindri durant les dernières années entre les habitants du village, entre la collectivité. Des services sont proposés alors que l'auberge était à cette époque-là complètement fermée pour le premier confinement. Petit à petit, au fur et à mesure du déconfinement, de l'été, les initiatives ont perduré. On a ressenti dans la clientèle l'envie et dans la communauté le besoin de se rapprocher les uns des autres et de recréer ce lien qui avait perdu un peu de sa joie de vivre.
Mmh. Alors effectivement, je disais, vous êtes aux marches de l'agglo. J'imagine que on est en territoire rural, ce qui est toujours la grande chance de cet agglo d'avoir cette variété, on va dire, de paysages et de lieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens isolés sur la commune?
Alors en effet, on n'est pas très très loin de Chabeuil, on est à un tout petit peu moins de 10 kilomètres, mais on a ici aussi des gens qui sont dans un isolement vraiment complet, des gens qui n'ont pas le permis de conduire, qui sont seuls au cœur du village, qui habitent dans de petits appartements, et pour qui la nécessité de préserver un petit lien, ne serait-ce que quelques minutes pour venir chercher un café à emporter ou se dépanner sur une bouteille de soda ou un paquet de farine, on s'est rendu compte que c'était vraiment important de conserver cet échange avec cette population-là aussi. Mais toutefois, ce ne sont pas les seuls à s'être spontanément présentés depuis 10 jours que l'ouverture de l'auberge, depuis une semaine, pardon, avec le confinement, qu'on a réouvert l'épicerie. On voit vraiment tous les habitants du village tenter de limiter leurs déplacements à l'extérieur pour des petites courses. Mmh. Et puis vraiment privilégier ce qu'on a essayé de mettre en place.
Alors, cette épicerie, il y a, je disais tout à l'heure, c'est vraiment créer du lien à tous les niveaux, puisque vous faites appel aussi aux producteurs locaux s'ils souhaitent venir faire un partenariat avec l'épicerie. Et puis, c'est solidaire et c'est écologique aussi. Vous faites un appel aux clients en disant venez avec vos récipients, puisque il y a pas mal de vrac aussi, donc c'est aussi un choix de produits.
Voilà, en effet. Alors, on a aussi décidé de miser sur l'avenir. On avait déjà, donc, comme je vous disais avant le confinement, ce projet de remettre en place un vrai lieu autour de l'auberge et pas seulement la restauration, donc la réouverture de cette partie épicerie. Et bien sûr, le choix du local s'est imposé à nous puisqu'il est déjà présent dans quasiment toute la production de nourriture du restaurant. Mmh. Donc on s'est dit que c'était intéressant en effet de reproposer des produits locaux, des produits en vrac avec des choses qu'on fait par chez nous et de rester toutefois accessible, voilà, sans en arrivant à
conserver des prix,
de supermarché.
Oui, c'est important. C'est important, ça. Il y a un espace associatif dédié aux échanges et de services. Donc ça, peut-être pour l'instant, il est un petit peu en stand-by et encore que, parce que c'est quoi les échanges de services? Ça peut être peut-être du...
Alors voilà, ça s'est adapté, hein, les échanges de services. Aujourd'hui, c'est un petit carnet qui est mis à disposition avec tout un petit protocole sanitaire autour pour permettre aux habitants de proposer du covoiturage ou bien du circuit de course, justement, pour les grandes surfaces, les moyennes surfaces, les producteurs locaux qui sont sur Chabeuil, pour nos habitants qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Mmh. C'est aussi proposer de l'échange de graines, c'est aussi proposer des petits services comme ça, qui permettent, encore une fois, de préserver ce lien et puis d'échanger entre la communauté. Mmh.
Alors, pour le lien, on en a bigrement besoin, surtout en ce moment, où ce lien, il est forcément avec précaution, mais il faut qu'il soit d'autant plus fort. On va finir par nous amuser les papilles, puisque c'est l'auberge des Trois Ruisseaux, c'est aussi un restaurant. Donc, vous avez mis en place toute l'équipe, enfin, je dis toute l'équipe, mais enfin, c'est surtout toi, d'ailleurs, Anthony, qui est le chef cuisinier. qui a mis en place de la vente à emporter. Alors, comment ça se passe, les plats à emporter?
Alors, pour l'instant, on est resté sur les week-ends, les vendredis soirs et les samedis soirs, hein, puisque l'idée, ça reste de fédérer la population locale. On ne va pas demander aux gens de venir trop loin. Mmh. Le but, encore une fois, ce n'est pas de faire un chiffre d'affaires, mais de préserver l'activité et puis de permettre à l'entreprise de traverser cette crise aussi. Alors aujourd'hui, ce sont les vendredis soirs et les samedis soirs. On a mis une petite carte de burger avec deux burgers faits à partir de produits locaux, de pain maison et de préparations faites par mes petites mimines. Ça, c'est pour les vendredis soirs et les samedis soirs. Et le samedi soir, j'ai rajouté en plus un petit plat du jour qui change toutes les semaines. Voilà, je propose quelques portions bien limitées, bien sûr, hein, puisque on reste une commune de 450 habitants, et même si quelques amis voisins de Péru, de Château-Double, viennent jusque nous pour commander à emporter, on n'a pas un débit énorme, mais bien ça sûr. Permet en tout cas de traverser cette crise et puis de ne pas perdre de temps à tourner en rond. Mmh.
Très bien. Alors l'auberge des Trois Ruisseaux à Combeauvin, c'est au centre du village. Vous verrez, c'est au cœur du village. C'est tout. C'est vraiment un petit village qui est comme on les aime, avec toute la chaleur, toute cette chaleur qui bat. Je fais un petit salut à l'association Casamata qui va continuer, j'imagine, à proposer des animations une fois que les choses seront revenues à la normale.
Oui, 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 c'est vraiment ce qu'on espère le plus, hein, la réouverture pour remettre la culture au centre de notre projet.
Ben, en tous les cas, on vous souhaite, on se souhaite à toutes et tous que ça finisse le plus tôt possible, qu'effectivement la culture revienne, la culture vivante puisse revenir dans nos vies, et d'ici là, qu'on essaye de continuer encore une fois à faire ces passerelles, à faire ce lien. Bravo à vous pour ces belles initiatives, et puis longue vie, et j'espère qu'on va pouvoir bientôt retourner aller voir dans la cuisine, qu'est-ce qui se mijote. Merci. Merci beaucoup, Anthony.
Merci à vous, Sylvie.
C'était Anthony de l'auberge des Trois Ruisseaux, et Karina, on est carrément à la bourre.
Oui, on est complètement à la bourre.
Donc on va se dire au revoir, on se retrouve
après-demain.
On se retrouve jeudi, voilà, puisque demain c'est férié. On se retrouve jeudi pour la locale à 12h15. Merci, au revoir Karina.
Au revoir Sylvie, à jeudi.
Au revoir à tout le monde.